lieux de l'histoire en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie, et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est Talloire et l'ermitage de Saint-Germain. Depuis le belvédère, au-dessus de Talloire, la vue est imprenable sur le lac d'Annecy et les montagnes des Bauges. C'est là qu'au XIe siècle, un moine bénédictin passe dans une grotte les dernières années de sa vie. Germain, né en l'an 1000 en pays flamand, aurait manifesté de bonne heure son attachement à la religion catholique, en restant de longs moments à prier dans l'église de son village, près de Malines, qui est de nos jours en Belgique. Accompagné de son frère Rodolphe, ou Ruff, il part pour étudier à Paris, puis tous deux se font moines à l'abbaye bénédictine de Savigny, située à l'ouest de Lyon. À cette époque féodale, où la souveraineté est dispersée entre les mains d'un certain nombre de grands seigneurs, la plupart des responsables ecclésiastiques sont nommés par ceux qui détiennent le pouvoir politique. C'est ainsi que vers 1020, le roi de Bourgogne, Rodolphe III, dit le pieux ou le feignant, sous l'impulsion de sa très chère et humble épouse, Ermenengar, fait don aux moines de Savigny d'un domaine religieux, sise dans les baies de Talloire avec ses dépendances, ainsi qu'une église dédiée à Sainte-Marie, Saint-Pierre et Saint-Maurice. Germain, son frère et deux autres moines sont alors chargés de se rendre sur place pour développer l'établissement situé sur la rive orientale du lac d'Annecy. Protégé du vent du nord, par l'épaulement boisé du roc de Cher, faisant face au prieuré de Saint-Joriot, de Duin, fondé deux siècles plus tôt et aujourd'hui disparu. Un prieuré est un monastère le plus souvent subordonné à une abbaye plus importante, placée sous l'autorité d'un prieur, du latin prior, premier des deux supérieurs, lui-même dépendant d'un abbé. Si ce dernier est nommé à vie, le prieur, en revanche, peut à tout moment devenir simple moine. Germain devient ainsi le premier prieur de Talloire. Guidé par la règle de Saint-Benoît, la vie de la communauté monastique installée dans les locaux, spartiate et rythmée par la méditation, les nombreux offices, la culture de la terre, les plantations, des jardins et des vignes. À l'intérieur de l'église, comme sur sa façade, la couleur se fait omniprésente, tandis que le brun ou le gris, symbole d'humilité et de pénitence, teinte l'étoffe grossière des habits portés par ceux que l'on qualifie de moines noirs. On ignore de quelle façon Germain dirige le petit groupe dont il a la responsabilité. Est-il sévère ou laxiste? En tout cas, cette fonction ne doit pas l'emballer outre mesure, car il retourne bientôt à l'abbaye de Savigny en tant que moine. Son frère Ruff lui succédant au poste de prieur. La légende fait ensuite aller Germain en Terre Sainte. Bourdon à la main, à son retour en Savoie, il décide de mener une vie solitaire. Le mot « moine » vient d'ailleurs du grec « monos », seul. Passant ses nuits dans la grotte humide, faisant face au midi, à flanc de montagne, au contact de la nature, dans un cadre propice à la réflexion, à la détente physique et morale, avant de descendre chaque matin, aux premières lueurs de l'aube, par un sentier rocailleux et pentu, vers le prieuré de Talloire pour assister aux divins offices. Pour sa part, son frère Ruff se retire aux environs de Faverges, dans un vallon reculé et sauvage, appelé de nos jours le vallon Saint-Ruff, situé entre la pointe de Vélan et celle de Sambuy. Nombreux sont ainsi les moines à rechercher la solitude en pleine forêt, au sommet d'une montagne, à l'écart des bourgades, dans une simple logette de pierre. Le soir venu, Germain regagne sa retraite, dans laquelle il prend son unique repas quotidien préparé au monastère, ou jeûne, quand le mauvais temps fait de la résistance. Avec les années, sachant l'inconfort du logis, les gens du coin bâtissent un oratoire au-dessus de la grotte où l'ermite vieillissant peut dire ses prières et recevoir les fidèles venus lui demander conseil, implorer son intercession en faveur d'un malade ou d'un infirme. Germain meurt très vieux, entre 1080 et 1090. Son corps est enseveli dans son oratoire, bientôt transformé en chapelle. Au cours des siècles suivants, le culte de Saint-Germain prend de l'importance. Le lundi de Pentecôte, monté en procession depuis Talloire, apportant des offrandes, les pèlerins toujours plus nombreux font sur les genoux le tour du tombeau en signe de reconnaissance, de pénitence et de foi. En 1609, François de Sales se rend lui aussi sur place et l'évêque de Genève en exil à Annecy, constatant l'état dégradé des lieux, lance des travaux de restauration. Le 28 octobre 1621, entouré par une foule orante, il ouvre lui-même la tombe et dépose des reliques dans un coffret qu'il place sur l'autel érigé en l'honneur du Saint-Ermite. Les pèlerinages reprennent de plus belle et François de Sales manifeste son intention de finir ses jours dans un cadre alpin. « Ici, affirme-t-il, les grandes et belles pensées vous tomberont drues et menues comme les neiges qui y tombent en hiver. » La mort ne lui laisse pas le temps d'exécuter ce destin. La chapelle est vandalisée en 1793, puis vendue comme bien national, mais les autochtones parviennent à sauver la cassette vernie en noir, portant l'inscription « Ossa Beati Germani », qui veut dire « Os de Saint-Germain ». En 1831, on transfère les reliques dans l'église de Talloire, avant de les remonter le 28 octobre 1838 sous une pluie tenace dans la chapelle restaurée de Saint-Germain, élevée au rang d'église paroissiale, 3 ans plus tôt, pour les 6 hameaux dominant la baie. Quelques années après la réunion de la Savoie à la France pour abriter la chasse de Saint-Germain, on ajoute une petite chapelle latérale à l'église. Cette dernière, bénéficiant d'une complète rénovation au début du XXIe siècle, dehors, en contrebas et à flanc de rocher, la grotte attend le pèlerin ou le visiteur face à un panorama exceptionnel. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en pays de Savoie. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.